Aujourd'hui, bienvenue sur Radio Craponne pour parler d'un sujet, des journées européennes de vos droits en santé. Une journée qui, vous allez le voir, en fait, en est une semaine. On va en parler avec des acteurs du pays de Craponne, hein, puisqu'on va parler aujourd'hui de cette loi Leonetti-Claeys, qui est une loi. Alors, la loi Leonetti est un petit peu plus antérieure à la loi Leonetti-Claeys, puisqu'elle est de février 2016. Alors, pour nous en parler, on a Françoise Alandrieux, qui est directrice des soins du centre hospitalier de proximité du pays de Craponne. Patrick Bont, qui en est son nouveau directeur de site, et le docteur Serge Pirou, qui est lui médecin urgentiste, donc, et qui sont avec nous. Alors tout d'abord, on va commencer avec ce nouveau directeur du site, pour le découvrir un petit peu, parce qu'on le découvre, nous, aujourd'hui, dans cette émission. Donc Patrick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là depuis peu, hein ?
Alors effectivement, j'ai pris fonction le 4 janvier 2016.
Et vous venez d'où ?
Alors je sors de l'école de santé publique de Rennes, le HESP, et auparavant j'avais une carrière en qualité de fonctionnaire, j'étais attaché. J'ai notamment travaillé dans les tribunaux administratifs et aussi en DAS antérieurement.
D'accord, donc c'est un changement total ?
C'est un changement total, oui. C'est un autre univers. Bon, je reste fonctionnaire, mais voilà, je navigue dans un autre univers.
C'est votre premier poste ?
C'est mon premier poste
en tant que directeur adjoint,
on va dire. De directeur.
Directeur de site, hein, puisque vous dépendez de l'hôpital Milroux.
Oui, effectivement, le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon est en direction commune avec le centre hospitalier Milroux du Puy-en-Velay, et le directeur général est monsieur Jean-Marie Bollier.
Alors, pour être directeur de centre hospitalier, c'est un cursus spécial ?
Oui, c'est un cursus spécial, puisqu'il faut satisfaire à des épreuves de concours. Hein. Donc, il y a plusieurs filières. Il y a la filière des directeurs d'hôpitaux, la filière des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et la filière des directeurs de soins. Donc, la particularité de la fonction publique hospitalière, c'est d'avoir 3 corps de direction, alors que les autres fonctions publiques n'en ont qu'un. Et donc, c'est un concours niveau licence, avec 2 ans d'études à la clé, à Rennes.
Oui, puis on va dire que c'est un poste important parce que on sait que le centre hospitalier du pays de Craponne est le plus gros employeur du coin. Donc c'est une lourde responsabilité avec beaucoup de salariés.
Oui, on doit avoir à peu près 150 salariés en ETPR. Alors à la fin de l'année 2015, on avait 134 ETPR. Donc alors, équivalent de temps plein.
Traduisez, hein,
parce que. Ah oui, alors je précise, équivalent de temps plein rémunéré.
D'accord. Voilà, donc oui, ce qui représente quand même un gros travail, puis tout le reste, bien sûr, qui s'articule autour. Alors, on va parler aujourd'hui de ces journées européennes de vos droits en santé. On peut dire que c'est une nouvelle loi. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre, là, Patrick
oui,
ou Serge.
Oui, je veux bien répondre.
Oui.
Effectivement, c'est une nouvelle loi, mais qui vient... qui complète déjà un dispositif juridique, hein, puisqu'on en a parlé un petit peu, et on avait la loi Leonetti en 2005, et 10 ans après, on a la loi Leonetti-Claeys, hein, donc qui déjà, de par son nom, s'appuie sur la loi de 2005. Hein. Elle a été adoptée par le Parlement le 2 février 2016.
Alors, c'était un besoin. Pourquoi ces lois ? Parce qu'on en a beaucoup en France, c'est vrai, mais pourquoi une loi de plus, je dirais ?
Alors là, je vais peut-être...
Serge Pirou peut répondre.
Passer la parole au docteur Pirou.
Actuellement, on entend beaucoup parler de fin de vie, on entend parler aussi d'euthanasie. Et c'est vrai, c'est des sujets qui sont assez difficiles. Cette loi a essayé de préciser un petit peu les choses par rapport à la loi qui était ancienne. Et justement, le sujet de la conférence est évolution ou révolution. C'est-à-dire, y a-t-il une évolution majeure par rapport à la première loi Leonetti ? Donc la conférence permettra de donner des informations et peut-être d'y répondre. Toujours est-il que nous orientons beaucoup, nous, sur la fin de vie, car l'euthanasie est une chose, la fin de vie n'est pas foncièrement l'euthanasie. Hein. Et donc, ça sera le débat de cette conférence.
Voilà, vous nous avez un peu devancé, Serge, parce que on va en parler tout à l'heure. Mais c'est bien, puisque, oui, en fait, le but, c'est qu'on va vous parler de la conférence qui aura lieu à Craponne. Alors, vous avez lâché un mot, là, qui fait beaucoup parler, c'est l'euthanasie. On sait que dans certains pays, je crois que c'est la Suisse, où c'est plus ou moins légal. C'est plus légal, hein, je pense, hein, c'est ça ou pas ?
On parle de suicide assisté.
Voilà, d'accord. Oui, alors bon, c'est pour ça que ça fait beaucoup parler. Donc, vous pensez qu'il y avait besoin de cette loi pour définir la fin de vie? C'est vrai qu'il faut en parler, puisque on sait que personne n'est éternel.
Alors, il y avait une loi sur la fin de vie et ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé par les médecins. Bon, cette nouvelle loi essaie de préciser. Foncièrement, il n'y a peut-être pas une évolution majeure. Et donc, après, on est dans un problème de société, donc effectivement, qui amène à revoir des lois. Des fois, encore faudrait-il déjà que les premières lois soient appliquées.
Très bien. Alors, on va parler avec Françoise Alandrieux, qui est à la direction des soins au centre hospitalier. Alors, comme le docteur Serge Pirou, vous êtes en contact direct ou avec les malades hein, ou les gens qui sont en fin de vie, puisque au centre hospitalier de Craponne, on accueille, puis maintenant on voit que les gens vont de plus en plus vieux. Alors comment vous ressentez-vous? Il y avait besoin de cette loi, comment vous le ressentez-vous?
Oui, je crois que les professionnels, qu'ils soient hospitaliers, libéraux et y compris le grand public, se questionnent beaucoup sur les droits qu'ils peuvent avoir sur leur fin de vie et notamment comment ils peuvent aider les personnes qu'ils prennent en charge sur donner des conseils, orienter et être un appui pour les personnes en difficulté.
Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle là comme ça très librement, je veux dire, mais bon, c'est jamais simple parce que on voit qu'il y a des personnes, enfin je pense que le docteur Serge Pirou pourra nous le confirmer, bon, on peut pas savoir, hein, parce que parfois on a l'impression que quelqu'un, c'est fini, et puis d'un coup, il y a des fois, on revient un peu à soi, non? Ça arrive ça aussi?
Oui, ça arrive, mais on peut jamais savoir le moment de fin de vie d'une personne, on peut jamais préjuger, des fois, on pense qu'une personne ne va pas durer dans les jours à venir. Et puis, en fait, cette personne se remet peu à peu et peut avoir des jours encore à vivre.
Oui, oui, c'est pour ça que c'est apparemment très compliqué quand on parle d'euthanasie, où là, c'est la fin de vie. Alors, ça peut être un choix aussi du malade. Ça vous est arrivé à vous, personnellement, que quelqu'un demande « moi, j'en ai assez de vivre, je veux m'en aller ».
Oui, les gens demandent régulièrement. Alors, quand ils demandent d'arrêter leur vie, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont envie de l'arrêter. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir le plus d'informations possible pour être de bons conseils. Et puis pour soi-même aussi, parce que ce n'est pas facile d'avoir des gens en fin de vie tout au long de sa carrière. Ça perturbe, ça questionne. Et plus on avance dans la carrière, je pense, et plus on se questionne.
Oui, puis je pense que derrière tout ça, il faut voir la famille. Bon, il y a la famille, bien sûr, donc la famille, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors certains doivent dire, on a l'impression que notre parent souffre, on peut pas abroger ses souffrances. C'est compliqué quand même, là, c'est une situation compliquée. Hein.
Les professionnels de santé, en fait, prennent tout le monde en charge, la personne elle-même, mais la famille, l'entourage, ça peut être quelqu'un de très proche qui n'est pas de la famille du tout. Et il faut savoir être un appui et répondre tout le temps, ce qui n'est pas facile au quotidien.
Alors, Serge Pirou, donc vous en tant que médecin, je pense que vous avez été confronté aussi à ce genre de problème hein, avec la famille qui dit « mais attendez, ça fait un moment que notre parent ou notre proche est malade, il va s'en sortir, il va pas s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire ?»
Je crois que ce qui est important, vous le dites, ce qui est important, c'est pas, on parle d'euthanasie, ce qui est important, je crois, c'est la prise en charge des gens, c'est-à-dire que, de toute façon, on est tous destinés à mourir, quoi qu'il en soit, c'est la seule chose qu'on sait quand on va naître, c'est qu'on mourra un jour. Après, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et ce qui est important, et ce que les gens demandent en général, c'est pas de cesser de vivre, c'est de mourir dans la dignité, sans souffrance, encadré, avec une prise en charge de la douleur et une prise en charge psychologique. Et ça, je crois que c'est le rôle du soignant. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que certes, le médecin, eh ben, effectivement, est décisionnaire des actes, mais qu'il ne le fait pas tout seul. Il fait d'abord en travaillant avec une équipe, en discutant avec l'équipe, puisque c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe, c'est-à-dire c'est l'ensemble des soignants qui prennent en charge le patient qui vont discuter de tout ça, en accord avec la famille, en accord avec le patient quand c'est possible. Alors à ce sujet, il existe ce qu'on appelle les directives anticipées, qui sont des directives qui sont dictées par la personne quand elle est capable de décider, et effectivement on appliquera les directives anticipées de la personne si la personne n'est plus capable de communiquer, par exemple chez les gens comateux, etc. Mais en prenant en compte l'avis de l'équipe, l'avis de la famille et de l'entourage, et essayer de, disons, de permettre une fin digne de la personne.
C'est ce qu'on n'avait pas auparavant ?
C'est sans doute ce qu'on avait, parce que la médecine n'a pas attendu des doigts pour faire, mais je pense qu'effectivement, ce n'était pas toujours simple. Il y avait parfois des déviations de ces choses-là. Et il a fallu une loi pour mettre des choses claires. Alors, une loi, c'est une loi. Après, l'application n'est pas toujours simple. On le voit actuellement dans les différents faits divers. Et ce n'est pas simple. Si c'était si simple que ça, vous savez, la vie et la médecine, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, sûrement. Alors, donc justement, vous en avez parlé tout à l'heure, déjà avec un petit peu d'avance, puisqu'il y aura une conférence débat à Craponne. Alors, on disait la journée européenne, mais en fait, qui va être sur une semaine, parce qu'on voit qu'il va y avoir des choses un petit peu partout, ne serait-ce que sur la région Auvergne. Alors, Craponne, ça sera le 20 avril. Il y a une conférence débat donc sur la nouvelle loi sur la fin de vie, révolution ou évolution, c'est le titre. Et on va voir des intervenants. Donc, c'est Maître Regnoux, c'est ça ?
Maître
oui.
Regnoux.
Qui fait quoi, alors, en fait ?
Maître Regnoux est une juriste spécialisée dans ces problèmes-là.
Oui, parce que là, il y a un problème juridique aussi.
Voilà, et qui connaît très très bien, connaît très très bien ces lois, puisqu'il y a des années qu'elle travaille dessus. Et donc, qui nous expliquera les tenants, les aboutissants de la loi, et les évolutions, surtout. Et ça, effectivement, il faut bien un juriste pour comprendre ces choses-là. Et puis il y aura d'autres personnes qui vont intervenir.
Vous avez mis Monsieur Deviette aussi, c'est...
Voilà, qui est président de l'association de la fin de vie dans la dignité. Alors, oui, excusez-moi, j'écorche peut-être un petit peu le nom. Le droit à mourir dans la dignité, l'association au droit à mourir dans la dignité, la DMD.
Alors bon, là, on va dire que, comme vous le disiez, on sait quand on va mourir. Donc ça, c'est une conférence qui s'adresse à tous, et peut-être plus particulièrement à ceux qui n'ont pas touché de près ce qu'est la fin de vie, parce que bon, certains parents partent très rapidement, d'autres ça dure un petit peu plus. Je crois qu'il y a un intérêt. On parlait du juridique, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas aussi simple que l'on dit. Il y a sûrement des choses qui ont à voir avec la justice. Si vous faites venir une avocate, c'est qu'elle aura des chances à expliquer.
Tout à fait, elle précisera des choses. On est effectivement dans une société juridique à son importance. La plupart du temps, il n'y a aucun problème. Il y a quelques cas, et on le voit dans les journaux et dans les journaux télévisés, il y a quelques cas retentissants, effectivement, de problèmes sur les fins de vie. C'est vrai qu'à un moment, on est obligé d'avoir une loi, mais la plupart du temps, cette loi, en fait, n'est pas nécessaire dans le sens que tout se passe bien.
Oui, justement, puisque vous parlez des faits divers, je crois que c'est un jeune homme là qui vit, qui est en vie artificielle, on peut dire, depuis des années et des années. Alors la plupart de sa famille, et même lui, voudrait qu'on mette fin à sa vie, et je crois que c'est sa mère qui s'y oppose. Quand on est médecin, comment on réagit à ça ?
Eh ben, c'est pas simple, parce qu'on a notre conscience, on a notre éthique, et disons que c'est pas toujours les cas qui sont les plus médiatiques, qui sont les plus compliqués, mais après il entre tout un tas de notions qui sont pas forcément des notions médicales, et là après le médecin a besoin justement d'un épaulement juridique pour savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire en fonction de ça, et c'est pour ça qu'on établit des lois.
Et vous avez parfois, alors ça je pose la question à tous les trois à la fois, en fait, est-ce que vous avez parfois une pression des familles ?
Pression, je crois que c'est pas une pression.
Oui, c'est un peu fort. Mais bon.
Mais c'est-à-dire que les gens, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Françoise Alandrieux, les gens, ils sont démunis, ils savent pas comment faire, ils voient la souffrance ou des choses qu'ils interprètent comme de la souffrance, qui peut être physique, psychologique. Et En général, dans la majorité des cas, il suffit de voir la famille, de discuter, de voir leur attente, d'essayer de comprendre leur douleur pour pouvoir expliquer qu'en fait, un malade, on peut le soulager au niveau de la douleur. En plus, il y a une loi qui nous oblige à soulager la douleur. C'est une loi française. Il y a aussi la prise en charge psychologique et il y a la prise en charge justement des familles et des aidants qui sont dans une détresse. Et si toute l'équipe soignante encadre la famille, et ben en général ça se passe très bien, les choses se font naturellement et tout le monde à la sortie, on peut pas dire qu'on est heureux de voir mourir quelqu'un, mais tout le monde est apaisé et les choses se passent bien, et ça c'est le travail d'une équipe de soins.
Alors peut-être là, c'est la question à Patrick Bonte. Donc vous, je dirais que vous êtes le directeur donc de ce centre hospitalier. Alors je pense que votre personnel doit être un peu formé à cette situation, parce que c'est elles qui sont, que ce soit les aides-soignantes, que ce soit les infirmières, je ne connais pas tout le... Mais c'est elles qui sont en contact avec les personnes, quoi, directement.
Oui, alors effectivement, l'ensemble des soignants sont en contact avec les personnes qui sont amenées à terminer leur vie. Les aides-soignantes, les infirmières diplômées d'État, ce qu'on appelle les IDE, les médecins, l'encadrement soignant. Le centre hospitalier est composé d'une partie médecine, mais aussi d'une partie EHPAD. Hein. Donc, c'est une résidence où on accueille les personnes âgées dépendantes. Et c'est un lieu de vie. Hein. On y vit, on y demeure d'ailleurs assez longtemps. Et un certain nombre de personnes terminent leur vie au sein de l'EHPAD. Et il y a un accompagnement qui est fait. Et effectivement, on a plusieurs dispositifs juridiques depuis la loi Leonetti hein, qui permettent d'encadrer un petit peu la fin de vie. Nous avons les directives anticipées. Alors, l'idée aussi de notre inscription dans cette journée européenne des droits sur la santé, c'est de promouvoir un petit peu ces droits parce qu'ils ne sont pas connus. On estime que 70% des Français ne connaissent pas leurs droits en matière de santé. Alors j'avais un chiffre, alors je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, j'avais le chiffre de 2,5% des Français qui avaient rédigé des directives anticipées. Donc autant vous dire que, comme le disait le docteur Pirou, le dispositif juridique existe, mais il n'est pas forcément appliqué, ou alors il est mal appliqué. C'était un peu un constat qui avait été fait par un rapport de 2012, le rapport SICAR, qui avait constaté que la loi Leonetti n'était pas bien appliquée. Et donc, l'évolution législative a donné lieu à la loi Claeys-Leonetti.
Alors, si on va prendre le cas du centre hospitalier de Craponne, qui est quand même un centre très récent, je crois qu'il doit avoir 3, 4 ans, 5 ans, la construction du nouveau, qui est à peu près, hein, je pense...
De 2010. Avril 2010.
Oui, donc ça fait 6 ans, voilà. Je crois que là, de ce côté-là aussi, on a beaucoup progressé, hein, parce qu'on disait, maintenant, il y a des animations, il y a des animatrices qui n'existaient pas auparavant et qui sont là, justement. Ça fait partie un peu, pas forcément de l'accompagnement directement de la fin de vie, parce qu'il y a des gens, comme vous le disiez, qui restent très longtemps, mais quand même qui sont dans une autre ambiance.
Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à créer un lieu de vie. Hein. Donc effectivement, donc c'est les chambres au niveau de l'EHPAD, ce sont des résidences. Donc les résidents sont chez eux dans leur chambre et on essaye de mettre à profit un certain nombre d'activités hein, pour animer leur quotidien. Alors Françoise pourra peut-être mieux vous en parler que moi, mais enfin ce sont des animations, des activités manuelles, ce sont des sorties, ça peut être des chants, ça peut être ça revêt divers aspects.
Oui, alors François, justement, puisqu'il y a un petit moment que vous êtes dans la profession, il y a quand même eu une évolution là depuis quelques années, hein, assez énorme quand même. Hein.
Oui, il y a eu une grande évolution sur la prise en charge au quotidien dans les... Alors on appelle maintenant les EHPAD, c'était des maisons de retraite auparavant. Les maisons de retraite étaient des lieux où les gens venaient passer la fin de leur vie parce qu'ils étaient dépendants, devenus dépendants et donc ne pouvaient plus rester à domicile. Aujourd'hui, ces maisons de retraite qui ont évolué en EHPAD, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais bon, c'est comme ça, hein, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, prennent en charge et prennent en charge tout le côté social. Donc on organise effectivement des sorties, on fait toutes les foires qui peuvent être sur le secteur, que ce soit la foire d'automne, la Trifole, toutes ces choses, les marchés aussi, le 15 août, le 14 juillet, pour essayer de maintenir les gens dans la vie de tous les jours. En interne, on a des repas à thème. Hier, il y avait une après-midi chanson et danse. Un couple est venu chanter, danser. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, on fait toutes ces choses. Et puis aussi, il y a des choses que l'on fait sur des prises en charge non médicamenteuses, comme la prise en charge Snozolen, qui est une méthode nordique et qui prend en charge, sur le volet d'essence, aromathérapie, le toucher, la luminothérapie, enfin voilà. Et donc c'est une méthode qui calme, donc calme la douleur, mais qui peut calmer l'excitation, l'énervement. C'est un soignant pour un résident, c'est là où ça se complique, puisque pour une personne, on mobilise un soignant au détriment d'autres résidents. Mais on essaye de faire au mieux, en tout cas.